Bruno Cadoret, frère Bruno Cadoret, vous êtes le nouveau maître de l'ordre des prêcheurs. Vous dites dans une de vos récentes prédications, notre ordre est serviteur de la venue de Dieu et du dialogue. Qu'est-ce que cela veut dire?
J'ai été très frappé par la phrase que Paul VI a répétée et par laquelle il a inauguré presque son ministère dans Ecclesiam Suam, lorsqu'il parlait de l'Église et qu'il disait que l'Église était dialogue et qu'elle devait se faire conversation. Et que c'était son essence. Comme si l'essence même de l'Église, c'était d'être, à sa manière, dans son temps, une façon de manifester que la plus grande nouvelle pour le monde, c'est que Dieu vient au milieu de lui, que Dieu vient au milieu des hommes et qui vient vivre avec les hommes. D'ailleurs, dans l'ordre, nous aimons dire qu'un des traits de la spiritualité de l'ordre, même si c'est difficile de définir cela, c'est que c'est un ordre dont la spiritualité est celle de l'incarnation, de la venue de Dieu, qui vient converser avec les hommes, qui vient dialoguer avec eux. Et si l'Église est cela, lorsque l'ordre a été approuvé, fondé, porté par l'Église au XIIIe siècle, je pense qu'il l'a été en tant que tel. En tant qu'il fallait, par la prédication, par l'annonce de l'Évangile, servir cette réalité-là de l'Église. L'Église est dialogue. Elle n'a pas quelque chose à dire à partir de quoi dialoguer avec le monde. Elle est elle-même,
en son essence,
dialogue. C'est-à-dire une manière de mettre en conversation les hommes, de sorte qu'à travers leur conversation humaine, mystérieusement, par des mots humains balbutiants, quelque chose de la parole de Dieu soit entendu. Voilà. Si notre ordre est l'ordre des prêcheurs, les frères, les sœurs, les laïcs, toutes les différentes branches de la famille dominicaine, chacun à sa manière est au service de cette réalité-là de l'Église.
Alors vous dites quelque chose qui doit être entendu, quelque chose de la parole de Dieu qui doit être entendu. Comment le transmettre cela? Quels sont des défis que vous voyez, que vous avez déjà vécu et que vous continuez à voir maintenant dans cette nouvelle charge?
Sur la nouvelle charge, vous savez, ça fait 3 mois. J'apprends. Je suis en apprentissage pour l'instant, donc je découvre. Mais comme souvent quand on se pose des questions à propos de l'Évangile ou de la manière d'en témoigner, je crois qu'il faut regarder comment Jésus le faisait. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il s'est arrêté auprès des gens, il les a écoutés. Quand on voulait mettre de côté ceux qui ne convenaient pas, lui, il les laissait quand même entrer. Si jamais il était trop entouré, on passait par le toit et il accueillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là? Non, il faut être là, déjà. Il accueillait, il écoutait. Parfois, il posait des questions, pas tellement pour poser des questions, pour forcer quelqu'un à s'exprimer, mais plus pour donner à quelqu'un la possibilité d'être le plus authentique possible, le plus authentiquement ce qu'il est. Et puis il priait le Père à partir de cette conversation, et puis il consolait, et puis il partageait les repas, et il était simplement parmi les hommes, un frère parmi les hommes. Et je crois que la première des choses que nous avons à faire, tout chrétien, toute communauté chrétienne, est d'être à cette école-là. Quand Saint-Dominique, au XIIIe siècle, a inventé, avec diagdosma et au cours de plusieurs années, avec beaucoup d'hésitation finalement, c'est l'ordre plutôt qui s'est inventé dans les mains de Saint-Dominique, plutôt que Saint-Dominique qui avait l'idée d'un ordre tout fait. L'ordre s'est inventé. Comment il s'est inventé? Il s'est inventé parce que Saint-Dominique, à un moment, a dit « il faut être des hommes apostoliques et évangéliques ». Comment? En suivant le Christ. Comment? En regardant comment il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans le monde. Pourquoi il est venu dans le monde? Pour faire entendre la parole de Dieu. Comment le faire? En se taisant, en écoutant, en dialoguant. Et en prenant toute cette conversation pour la porter au Père. Voilà ce que fait Jésus. J'ai l'impression que c'est ce que nous devons faire.
Vous dites en nous taisant, en écoutant, en dialoguant. On sait aussi que Dominique était un homme de prière et un homme dont la prière était intense. Je crois que vous êtes aussi interpellé par cette prière.
Oui, Dominique était un priant, je crois vraiment un priant. On a gardé de lui d'ailleurs une sorte d'école de la prière où il y a plusieurs manières de prier que vous connaissez bien. Je pense que c'est un très très grand enseignement pour nous. Non pas pour donner des recettes de la prière, mais pour expliquer que le cœur de l'homme est capable d'être attentif à une parole qui à la fois le dépasse et en même temps qu'il peut goûter à l'intérieur de lui-même comme étant son essentiel. Comme étant en fait son premier mot. La prière, c'est au fond une attitude du corps, de l'âme, de l'intelligence, du cœur, une attitude qui est à la recherche de ce qui est en nous, notre premier mot. Et notre premier mot, c'est la venue pour nous déjà, du Fils de Dieu. C'est pas seulement une venue abstraite pour tout le monde qui ne serait personne, c'est la venue pour nous du Fils de Dieu. au fond, la prière, je crois que c'est ça. Et quand on rencontre à l'intérieur de soi, on ne touche jamais vraiment du doigt cette présence-là, mais on la perçoit. Et puis quand on l'a perçue, tout à coup, elle semble échapper pour nous faire aller plus au fond, pour être là où lui se tient, au fond de nous, là où il est le plus vrai. Quand on perçoit cela, alors on comprend que avec nous, c'est nous qui sommes en présence de Dieu, mais c'est nous et tous ceux que nous aimons, et tous ceux avec qui nous avons partagé, et tous ceux à qui nous avons parlé, tous ceux qui nous ont parlé. Et de ce fait, notre prière est une prière qui nomme le monde devant Dieu. Elle n'a aucun pouvoir, elle a simplement ce pouvoir de l'amitié, être en intimité le plus possible, en intimité avec celui qui veut être plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, être en intimité avec lui de sorte que c'est tout naturellement que nous lui parlons de celles et ceux qui comptent pour nous. Ainsi, pour Dominique, la prière d'intercession est une prière importante. On le voit par exemple, lever les bras et demander à Dieu qu'il porte son ordre dans sa prédication. J'imagine qu'il a dans la tête le visage de ses frères qu'il a envoyés. Il ne compte pas sur une magie de la prière efficace qui tout d'un coup guiderait, je ne sais pas comment. Non, mais il sait que lorsque l'ami nomme à l'ami quelqu'un qu'il aime, ce quelqu'un compte pour l'ami à qui il parle. C'est ça notre prière, je crois, finalement.
Une prière aussi qui, chez Saint Dominique, est un cri que vous aimez, un cri que vous conjuguez, que vous faites résonner aussi dans votre vie.
Oui, j'ai été très frappé par la manière dont un maître de l'ordre, Vincent de Quénongle, parlait des cris de Dominique. Ce sont des manières pour lui de se tenir devant Dieu. Par exemple, au début de sa vie évangélique et apostolique, il est pris par l'évangile. Il a envie d'annoncer l'évangile, de le faire entendre. D'annoncer l'évangile, ça veut dire d'annoncer la venue de Dieu comme une bonne nouvelle pour le monde. Voilà ce que c'est que d'annoncer l'évangile. Et à un moment donné, il est pris d'une sorte d'angoisse de dire, ça c'est pas sans les pauvres. C'est pas possible de faire ça sans les pauvres. C'est pas possible. Donc l'expression un peu typique, peut-être elle est historique, peut-être aménagée par l'histoire, c'est « je ne peux pas étudier la parole de Dieu sur des peaux mortes si des hommes meurent de faim ». Ça, c'est une parole qui pour nous doit être essentielle. Comment étudier la parole vivante? La parole vivante, celle qui vient pour la vie. Si nous restions indifférents à ceux qui meurent de faim, à ceux qui sont balayés par les puissances du monde, à ceux qui sont lancés sur les routes sans avoir aucune pierre pour reposer leur tête. Nous sommes fascinés par Jésus qui n'avait pas de lieu pour reposer sa tête, mais si nous sommes fascinés par lui, alors ils sont des millions aujourd'hui. Comment ne pas être hanté par le fait que c'est impossible de parler de la parole de Dieu vivante si on se laissait devenir indifférent à ceux qui sont donnés à la vie pour vivre et qui pourtant sont mis à mort ou promis à la mort ou promis à la misère. Donc, pas sans les pauvres. C'est pas du romantisme. C'est de dire, il y a quelque chose d'essentiel dans le fait que, d'un côté, je veux tenir, nous voulons tenir la parole de Dieu vivante, vie pour le monde, et de l'autre côté, nous voulons tenir dans notre main un monde vivant pour le présenter au Père. Et donc, c'est pas possible d'annoncer une parole de vie si on est indifférent à la vie malmenée des hommes. Et cette vie malmenée, elle l'est partout. Elle l'est dans les enfants des rues, elle l'est en Irak par exemple, elle l'est dans des pays d'Afrique, elle l'est quand la politique devient un jeu de pouvoir, elle l'est quand des pauvres sont rendus encore plus vulnérables parce qu'ils sont pauvres justement. C'est rarement les puissants qui sont mis à mal, c'est souvent les petits parce que c'est plus facile. Donc il faut qu'il y ait avec eux des amis qui ne sont pas plus malins qu'eux, qui ne sont pas plus forts qu'eux, mais qui avec eux portent la voix, leur voix, en présence de Dieu, de sorte que l'annonce de cette bonne nouvelle ne se fasse pas sans eux. C'est important parce que dans la promesse d'alliance par Dieu, très souvent, il nous le rappelle, la mesure de notre authenticité dans la réponse à la promesse, dans la réponse à l'appel à être son allié, à lui, Dieu, la mesure de l'authenticité, c'est le pauvre, la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre défenseur que Dieu et les amis de Dieu par sa grâce, pas sans les pauvres, pas sans les pécheurs. C'était un autre cri de Dominique, pas sans les pécheurs. Il passait son temps, dit-on, à prier Dieu pour les pécheurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas moins pécheur que les autres. Ça veut dire probablement qu'il se rendait compte lui-même, et quand on essaie d'être vrai avec soi-même, on voit bien que c'est la réalité. Il se rendait compte lui-même qu'il était souvent insuffisant dans l'intensité de sa présence à Dieu. Nous savons bien, chacun de nous, enfin vous, j'imagine, qu'on est désajusté de Dieu, souvent, qu'on aimerait être en direction de lui, et qu'en fait, on est en direction de lui, mais en même temps, un peu retenu, un peu partagé, un peu mélangé. Nos réalités humaines nous conduisent à un authentique désir de Dieu, et en même temps, à être pris par des pièges, par des filets qui nous retiennent à nous-mêmes, qui nous enferment, qui nous emprisonnent, qui nous aveugle. Bref, manquer la cible en quelque sorte. Cette réalité nous traverse et elle fait souffrir. Pas seulement parce qu'on n'est pas content de nous-mêmes, mais parce que c'est pas ça notre désir vrai. Le fait que Dominique, dans sa prière, porte cette réalité-là des pécheurs, c'est-à-dire c'est pas la réalité du péché, c'est la réalité de l'existence des hommes lorsqu'ils sont pécheurs, et éventuellement de la souffrance, de la culpabilité qu'ils peuvent ressentir, du désir aussi qui, au fond, les porterait à être plus en vérité vers Dieu. Porter cette réalité-là, c'est porter le plus essentiel du désir de l'homme, son désir de bonté, son désir de beauté, son désir d'ajustement à Dieu, son désir d'être vrai, son désir d'avoir une parole qui soit une parole juste, une parole dans laquelle il est vraiment investi, de tenir sa parole, pas sans les pécheurs. C'est pas se lamenter du fait qu'il y aurait des pécheurs, c'est pour dire pas sans l'humanité dans sa pleine réalité, avec tout ce qui la disperse, la mélange, mais aussi la porte en désir.